ce soir, j'ai un message. On va voir si ça va être édifiant. Je suis sûr que ça va être édifiant. c'est bien et on va être instruit. Voilà. OK, Seigneur, bénis ces paroles maintenant. C'est pour ta gloire. Et aide-nous aussi qu'on peut trouver que c'est édifiant pour nos vies, Seigneur. Merci. Amen. OK, donc cet après-midi, je suis en train de penser, j'ai pensé à le sujet de pleurer. Donc ça, c'est déjà rendu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Et le monde, c'est important de savoir que le monde associe les larmes, peut-être avec des mauvaises nouvelles. Et c'est la première pensée, quelqu'un en train de pleurer et on peut dire, oh, ça c'est terrible et on est triste. Et on peut être attristé aussi, on peut être touché par les gens. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Bien sûr, c'est pas, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas une liste compréhensible, pas entièrement. Mais c'est juste pour donner quelques idées. Je n'ai pas fondé la Bible jusqu'au bout avec une étude, mais quelque chose à penser. La première chose, on peut dire sur ce sujet, peut-être on va tourner à Jean chapitre 11, verset 35. Jean 11, 35. Le verset le plus court dans la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Première chose que je vais dire sur sept points est Dieu est une personne. Il est. Il a dit je suis. Et je l'ai déjà dit, mais peut-être je vais essayer de nouveau de gratter un peu. En long terme, en fait, c'est pas long terme, c'est quatre jours après. Lazare est dans le tombeau. Jésus arrive, il voit tout ce qui est en train de passer, et il y a quelque chose qu'il fait. Le premier, il est tellement troublé dans le second, mais intéressant de savoir que cette mot parle d'être en colère. Donc, il était furieux, pas troublé, furieux, furieux avec le diable et furieux avec la mort. Parce que pour lui, la mort n'est pas normale, il n'accepte pas la mort, mais il passe par certaines étapes. Donc le Dieu de la présence n'est pas en train de, peut-être je vais essayer de faire comme ça. Il n'est pas en train de courir pour arriver jusqu'au bout et dire c'est fini, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est fini, mes gars, c'est fini, monsieur, mesdames, je ne sais pas, ça c'est trop familier, les gars. C'est fini, j'arrive, je suis là, et maintenant, résurrection. Et Lazare, pouf, il saute le tombeau. Non. Dieu, et ça c'est quelque chose, Dieu entre dans le moment avec nous, moment par moment par moment. Il faut savoir, dans la deuil, c'est moment par moment. C'est vraiment des moments hauts et des moments bas dans les émotions. Et donc il faut savoir que Dieu prend sa temps. Il n'est pas en train d'aller avec vitesse d'arriver de la solution. Il reste avec nous dans nos moments. Dans la journée, il est avec nous, moment par moment, situation par situation, parce qu'il est le Dieu de la présence. Il arrive de pleurer, donc il a une compassion pour les gens. Donc, dans 10 minutes, peut-être 15 minutes, peut-être un peu plus, il va dire, Lazare, sors. Et faites choix. Mais il reste dans ce moment avec la tristesse. Il veut identifier avec Marie. Il veut identifier avec Marthe. Il veut rester dans ce moment. Donc, compassion pour les autres, de pleurer. Donc, il pleure avec eux. Il a pleuré. Le deuxième, c'est peut-être un peu lié. Luc chapitre 19. Luc 19, 41. Luc 19, 41. OK. Ici, Jésus est en train de descendre par le mont Olivier. C'est une descente assez... quel est le mot en français? It's a serious gradient. It's steep. It's a, c'est raide. C'est raide. Et en train de descendre comme ça, il voit toute la ville. Et il pleure. Il pleure quand il voit les gens. Parce qu'il est en train de regarder un peuple qui en dit non à la visitation de la Messie. Et donc, dans un moment, et en fait, Pasteur Stevens a expliqué un peu ce moment. Il a dit, c'était les larmes, mais ce n'était pas silencieux. C'était audible, avec peut-être haute voix. Son corps a tremblé avec l'émotion de ce moment. Parce que lui, il voit Israël et voir ce qui va passer. En Matthieu chapitre 23, il parle de la même chose. « Oh, Jérusalem, Jérusalem, comme je veux être comme un poulet, un maman, un poule avec mes ailes. Je veux garder comme vous êtes mes bébés. Et je veux protéger, mais vous n'avez pas accepté. Donc, je vais, vous n'avez jamais dire Hosanna, le fils de David, jusque le moment de mon retour. Donc, en fait, c'est un moment qui voit le présent, la réjection totale par Israël. Il voit les murs, il voit le temple, il voit les maisons, il voit le peuple. Il est tellement touché. Parce qu'en fait, il est en train de voir aussi en 70, années 70, Jérusalem était assiégé, entouré par les armées romaines. C'était un bloodbath, c'était un massacre, un bain de sang. Merci, un bain de sang. C'était tellement sanguinaire. Voilà. Oui, c'était quelque chose d'horrible, un massacre. Donc, il a ça dans ses pensées en même temps qu'il est en train de regarder un peuple en train de marcher. Et il pleure. Donc, c'est possible pour nous de voir un peuple qui sont détournés de Dieu et nous sommes affectés. Ça veut dire qu'il n'était pas indifférent. Application dans nos vies. On souffre quand on voit les gens qui sont détournés, ils sont dans une autre direction. Et on peut dire, il n'y a rien que je peux faire pour eux. J'ai fait tout. Jésus a fait tout. Est-ce qu'il y a une chose qu'il a manqué? Non, il a fait tout ce que le Père demandait. Et le peuple, ils ont dit non. Donc pour lui, il a compris, il n'y a rien plus que je peux faire. Je vais mourir sur le croix pour eux. Je vais retourner pour eux. Mais pour ce moment, une visitation est finie. Il y avait quelque chose. Ils ont passé à côté. Et c'est comme nous, des fois, je vois dans l'histoire de cette église et des églises en général que j'ai des bons souvenirs des gens que je connais. Et c'est des moments précieux. Et après, ils ont dit, on ne comprend pas parce que pour eux, ils ne sont pas touchés par la même chose. C'est comme ils sont présents pour une visitation du Seigneur, tellement wow. Ils sont là. Et je dis, wow. Et ils ont dit, quoi? C'est comme le cœur proche, mais pas affecté, pas touché. Et je suis touché parce que je ne suis pas indifférent. Je pense... C'est un dommage. C'est tellement tragique que cette personne a parti dans cette direction. on a vécu tellement de bonnes choses ensemble et après, parti. Donc, ça veut dire, c'est le cœur de Dieu d'être attristé. Et aussi, c'est intéressant de voir que nous sommes connectés parce qu'on est touchés par la même chose. Ça, c'est notre sujet. Mais je ne suis pas quelqu'un tellement émotionnel. Normalement, pas tellement émotionnel. Mais des fois, ma femme peut constater que je vois quelque chose, le Chosen, par exemple, ou un film, et je suis tellement touché. Elle dit, ça va? Et je dis, oui. Je suis l'âme des yeux, non des yeux. Et ce n'est pas pour dire que je... Ça, mais c'est de dire que dans le moment où le Saint-Esprit peut nous toucher, on peut être tellement touché par quelque chose que Dieu fait. Un chant, par exemple. Un moment dans un message. Des fois, Pasteur Matty, quand il parle, je vois qu'il est tellement affecté. Et Pasteur Shala aussi. Et c'était... C'est intéressant. On est des hommes. Et moi, je dis, mon père n'était jamais quelqu'un qui me montre ses émotions, mais je comprends qu'un homme de Dieu peut pleurer. Jérémy est un bon exemple. David a fait aussi, il a pleuré. C'est normal, bien sûr, dans le Moyen-Orient. Bien sûr, les gens sont plus ouverts à faire ça. Dans notre société, peut-être nous n'avons pas, mais... Partie de notre culture avec Dieu et pas la culture suisse ou français ou anglophone ou espagnophone. On est tellement connecté avec lui qu'on est sorti de notre propre culture et on est touché par la même chose qu'il est touché. Et ça, c'est un bon indicateur de notre marche avec le Seigneur quand on est en feu. Quand on est touché par la chose, il touche le Seigneur. Son cœur est touché, nous sommes touchés. Et on est affecté par ça. Et on peut être tristé quand les gens tournent le dos à Dieu. Et on peut dire, c'est bien, parce que si nous sommes indifférents, c'est un problème. Si nous sommes comme ça, oh, tant pis pour lui. Non, on est triste quand on voit cette chose. Et c'est normal. C'est partie de notre marche spirituelle d'être affecté. Dieu a ouvert son cœur, comme je dis. Le cœur est exposé. On ne va jamais. Si on est dans un combat, on garde et protège le corps. Et le cœur est vulnérable. Donc, on va garder et protéger les organes délicats et fragiles. Et donc, bien sûr, il y a des autres, mais le cœur, c'est important. Mais lui, exposé. Et dans notre vie, le cœur est exposé parce qu'on prend un risque avec les gens. Et certains gens viennent, certains gens pas. Certains, on fait confiance et la confiance est, voilà. Mais de voir que Dieu est tristé, il pleure, c'est normal pour nous aussi. Ça veut dire que ce n'est pas une impression de forcer quelque chose, c'est juste le cas. On vit avec ça. Donc, Dieu est triste, nous sommes tristes aussi. Pierre, en Matthieu 26, c'est le prochain point. Matthieu 26, verset 75. OK. Trois fois, il a dit, je ne connais pas cet homme. Kikriki, le coq, a chanté. Kokoriko, kokoriko. Le coq a chanté deux fois. Et trois fois, il a dit, non, je ne connais pas. Comme Jésus a dit, Pierre, tu vas me régner. Tu vas me régner. Trois fois. Et il a fait. Et quand il a réalisé en verset 75, il a sauté en pleurant. Mais il lisa l'âme avec amertume. Nous avons aussi, mais c'est un autre cas et on n'est pas 100% sûr. Judas, quand il a retourné au Sanhedrin, des sacrificateurs, il a l'argent avec lui. il a jeté, il a dit, c'est le sang d'un homme innocent. Donc lui, il avoue que Jésus est innocent. Et ces hommes, ils ont compris qu'il est innocent. Mais ils ont décidé de finir jusqu'au bout et mettre Jésus à la croix. Mais lui, un regret dans son cœur pour les conséquences de ses décisions. Pierre aussi. Mais la différence, Pierre est sauvé, évidemment. Mais dans les deux cas, on n'est pas sûr parce que ce n'est pas marqué. Mais je peux imaginer Judas en pleurant. Mais les larmes avec amertume. Ça veut dire, des fois, les gens pleurent. C'est quelque chose, le Seigneur dit non. Nous avons une expression en anglais britannique. Crocodile tears, les larmes des crocodiles. Oui, oui, crocodile. C'est faux, des fois. Des fois, c'est la pitié de soi. Des fois, c'est... Et on peut être attristé par le... Oui. Oui. Mais dans le langage, dans la littérature, on parle de ça dans le sens que c'est insensé, c'est pas vrai. Donc, physiologiquement, ça c'est un cas, biologiquement. OK, mais voilà, en bref, c'est une phrase utilisée dans le langage. Et les gens sont avec amertume. Donc, on ne peut pas. J'ai constaté ça, j'étais dans un travail. Et on dit contretemps, une dispute avec un collègue à Reuters, c'était dans mon ancien travail. Et elle pleurait. C'est notre cas. Mais ce n'était pas parce qu'elle a tristé, c'était la colère. C'est une autre émotion. Mais ça veut dire, quand quelqu'un peut pleurer, et on peut dire, oh, le pauvre. Non, pas le pauvre, cette personne. Détourné de Dieu. Pierre, il a entré, bien sûr, le Seigneur a converti, il était converti et retourné. Mais dans ce moment, il ne peut pas accepter ce qu'il a fait, il pense que c'est trop. Et pour lui, il ne peut pas retourner tout de suite parce que c'est la honte. Mais c'est une amertume. Et des gens qui sont en train de pleurer avec amertume, des fois, c'est tellement... toxique. C'est pas quelque chose qui amène à une tristesse, qui amène à la repentance, qui amène à Christ. Des fois, c'est quelque chose centré en eux. Et il est des fois, quand quelqu'un pleure, on peut dire, oh, le pauvre, et on cherche les tissus. Bien sûr, mais des fois, on peut dire, on n'est pas pitié de cette personne. Et si on montre pitié, si on montre une compassion pour eux, en fait, c'est aider la personne de rester plus dans la pitié. Donc, ce n'est pas de sortir. En fait, nous sommes en train d'aider la personne de rester fixée et tournée dans un rang. Des fois, c'est quelque chose tranchant à dire que pas comme ça. La repentance, par contre, peut être montrée par le fait qu'on a dit, OK, metanoïa d'être tourné dans une bonne direction et pas besoin de pleurer. Des fois, une repentance est quelque chose qui n'est pas visible sur le visage, mais c'était plutôt le plus important, c'est le cœur qui est touché. Donc, c'est important de savoir que, on voit dans les films sont le meilleur vraiment pour ça, c'est un peu pas biblique non plus, c'est des films qui montrent un caractère, il est tellement le vilain, et lui, il tourne vers Dieu, et on voit beaucoup de larmes, et il n'a pas besoin de ça. Des fois, c'est simplement dans le cœur, un changement. Et après, on voit une douceur dans la personne, bien sûr, mais on n'a pas besoin de montrer, voilà, s'il n'a pas repenti, il n'a pas des larmes. Non, pas besoin de larmes. pas besoin de pleurer des fois. Ça peut être des fois, mais ce n'est pas une règle d'or. Ce n'est pas fixé des fois, c'est quelque chose d'invisible qui passe. Tristesse. À cause de dire au revoir à quelqu'un. Actes chapitre 20, verset 37. Actes chapitre 20, verset 37. Et ça, c'est légitime. À la fin, avant il va retourner à Jérusalem, Paul est en train de parler avec les anciens d'Éphèse. Éphèse. À Éphèse, une église était bâtie, fondée, implantée, et Paul va dire au revoir à ces gens. Il va dire, en fait, vous ne voulez jamais voir ma visage nouveau dans cette vie, sur la terre. Et bien sûr, ils sont en train de pleurer. Et c'est normal, parce que Paul était quelqu'un tellement proche dans ses vies, et frères et sœurs, des fois, on fait ça. On dit au revoir de quelqu'un, on est pas sûr, on va voir de nouveau. Et donc, bien sûr, on peut avoir les larmes. C'est normal. C'est partie de la vie. C'est l'affection, c'est l'amour Philadelphia, Philadelphos. C'est un amour entre les frères et sœurs. Et en fait, des fois, je vois dans le corps de Christ qu'on est certains qui... En fait, c'est magnifique de voir. On dit au revoir et on dit au revoir de nouveau et on dit au revoir la troisième fois, la cinquième fois. Et des fois, on reste. Est-ce qu'on va dire au revoir? Non, on va rester un peu plus. 30 minutes après, au revoir, retourne. Tu vois, on aime d'être ensemble. Des fois, on a mal à dire au revoir. C'est quelque chose dans le corps de Christ. C'est beau de voir. C'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, c'est important. C'est une peine pour eux parce que les paroles en verset 38, il avait les peines dans ses paroles parce qu'il a dit au revoir, je dois dire au revoir, on ne va jamais voir dans cette vie. Un autre exemple, mais là plutôt, cinquième point, de quelque chose qui n'est pas valide. Esdras, chapitre 3, verset 11. À 13. Esdras 3, 11 à 13. Wow. Le temple de Solomon est construit. Et la présence de Dieu, la Shekinah, la gloire de Shekinah a descendu et les sacrificateurs ne peuvent pas continuer de servir dans le temple. C'était magnifique. Après, nous avons tout ce qui a passé, et un déclin, un détournement, tristesse, etc. Les gens commencent à idoliser des autres choses. Et maintenant, dans ce retour avec Esdras, on peut voir dans ce passage que les fondations de le temple de Zarobabel, fondation. Et quand les anciens, les gens, les sacrificateurs, les lévites et les chefs de la famille agissent, ils ont vu la fondation. Dans ces pensées, ils ont des souvenirs de le dernier temple de Solomon, le premier temple. Ça, c'était magnifique. Et pour eux, ils sont en train de comparer. Les autres peuples, en train de, peut-être, ils n'ont jamais vu l'ancien temple. Et eux, ils sont en train de chanter avec joie. Mais certains sont en train de pleurer audiblement, haute voix. Pourquoi? Comparaison. Dans ses pensées, ça ne va jamais être le meilleur. Le meilleur est déjà passé. Faux. Faux. Pourquoi que c'est faux? Parce que Dieu fait quelque chose de nouveau. Toute chose commence de nouveau. C'est une saison. La fin de quelque chose, c'est fini. Mais maintenant, c'est un nouvel début. Et donc, le début de quelque chose, méprisons pas les petits commencements. Parce que oui, Jérusalem a été reconstruit avec Néhémie. Zerubbabel et Esdras, la fondation et le temple. Et ça, c'était bien, mais c'est plus petit le temple de Salomon. Mais quel est le plus important? Que Dieu d'Israël va demeurer dans le même temple? Ou est-ce que c'est un peu plus petit, c'est 70 ans après, on est triste parce qu'on a voulu avoir quelque chose de plus magnifique? Pasteur Chebel a dit, c'était, it's good, it was good, it was God, it is gone. It's gone now. C'était Dieu, c'était bon et maintenant c'est fini. Et donc on tourne une nouvelle page. Un proverbe qui dit qu'on ne peut pas comparer les choses de la passé comme nous avons une nostalgie. Nostalgie. Ah, la nostalgie, c'était toujours comme ça. On a conduit les petits vélos, on a mangé la même chose. Quand on était jeune, on a joué. Wow! Et on peut être... on essaie de comparer quelque chose qui est faux parce qu'on ne peut pas comparer les choses. Parce que notre passé, on était troublés, on a des problèmes, bien sûr, on a aimé des moments. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est le même? Est-ce qu'il ne peut pas faire des choses plus glorieuses dans nos vies? Est-ce que l'avenir est plus glorieux que ce moment? Pourquoi qu'on peut pleurer sur quelque chose en pensant que le passé était mieux? Mauvaise comparaison, seule comparaison est avec Dieu. On ne peut pas comparer notre passé avec maintenant. Oui, quand je suis venu à l'église en 2004, il est ça qui est en train de passer, et ça. Non, on est en 2022. Et le même Seigneur est là, et sa gloire reste avec son église, et il bénit son église, et nos vies, on avance avec lui. On ne peut pas comparer le passé. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas juste, ce n'est pas... C'est pas bien. Et comment se pleurer de ça? Non, le Seigneur dit non. Et en Néhémie chapitre 8, pour le prochain. Le prochain. Néhémie chapitre 8, verset 9, je pense. Nous avons cette fameuse verset. La joie de le Seigneur est notre force. Super, mais quel est le contexte? Le contexte est le peuple en train d'être enseigné commence à pleurer. Ils ont pleuré, ils ont entendu l'enseignement donné par Esdras, expliqué par un scribe, 5 et 6 de ses côtés, un côté gauche, un côté gauche, un côté droite. Et ils commencent à pleurer quand ils ont reçu cet enseignement. En verset 9, et Ezra et les Lévites, écoute, pourquoi que vous êtes en train de pleurer? C'était une journée de joie. Et pourquoi qu'ils sont en train de pleurer? Peut-être parce qu'ils sont dans ses pensées en train de condamner soi-même. Oh, je ne vais jamais arriver, la parole, on sent ça, ça, ça. Oh, on est tellement les pêcheurs par excellence. On est les pêcheurs, comme Paul a dit, je suis chef de pêcheur. On pense que nous sommes chef de pêcheur aussi. Donc, on commence à pleurer. Quand je lis ça, je vois que le standard est là et moi, je suis moi, ça. En fait, on descend un peu plus, on gratte et descend un peu plus. Et en fait, la réponse, c'est pas de pleurer, mais de manger, de joie, avoir la joie. Parce que, comme cet verset, verset 10, le joie de le Seigneur est notre force. Oh, le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans une condamnation ou de commencer à pleurer quand c'est le moment d'expérimenter la joie. Parce qu'il a dit, c'est... Chaque fois, juste pour expliquer, Paracletos, le Saint-Esprit, para à côté, Kletos, called, appelé. On marche avec lui. Et moment par moment, il montre qu'est-ce qu'il est en train de penser? Quelles sont les émotions? Quels sont les sentiments de le Saint-Esprit dans un moment? Et on discerne et on dit, waouh, parce qu'il est en moi. Donc, ok, c'est un moment de joie. Je vais être joie. J'ai un moment de conviction. Comme ça. Et on va à un moment de tristesse pour quelque chose. Un moment d'être dégoûté par quelque chose parce que Dieu est dégoûté. Il est dit, oh, c'est abominable. Et nous expérimentons ces diversités des émotions et des moments. Et donc, c'est moment par moment. Ce n'est pas que tout le jour, on va expérimenter la même chose parce que Dieu, dans chaque moment, et peut-être il veut montrer quelque chose de différent pour nous. Et donc, ça veut dire, c'est le moment de joie, pourquoi on pleure? Si tout le monde est en train d'avoir joie, c'est nous, comme ça, le Seigneur dit, vous n'êtes pas dans la même marche avec tous les autres. Ça veut dire, comme un orchestre. J'étais dans un orchestre quand j'étais jeune avec une violine. Violine. Et j'étais toujours, pas toujours, mais des fois, avec les faux notes. Donc, imagine un orchestre parfaitement chaque. Et tout ça, ensemble, en train de faire ça. Et qu'est-ce que se passe? Voilà. Et ça va être un manque d'unité. Et cette harmonie que nous avons dans un orchestre, chaque part, chacun joue sa part, afin que c'est une mélodie joyeuse que les gens écoutent et disent waouh, mais tu as un faux note et c'est fini. Et donc, l'Église est un peuple en unité, et si nous avons des faux notes, ceux qui sont spirituels vraiment peuvent discerner ça. Et donc, ce n'est pas une condamnation, c'est encourageant. Voilà, on est tous dans le même niveau, le même bateau, et c'est le moment de joie. Donc, on va expérimenter la joie. On va entrer dans l'émotion et la présence de Dieu, et on va expérimenter ça. On va être connecté avec les pensées de Dieu. Donc, pas condamnation, joie. Voilà. Prochain point. Prochain point. Wow. Pleurons avec joie. Luc chapitre 15. Luc 15, verset 20. C'est la parabole de le cœur du Père. On peut dire aussi le Fils prodigue. Mais c'est le Père qui est plutôt la partie la plus importante parce que c'est son cœur qui est affecté. Et quand il voit le fils de loin, il court vers lui. Et c'est peu rigolo dans le King James Version, parce que c'est comme il a pris comme ça, et il était avec joie avec son fils. Mais dans le, je ne sais pas si je peux expliquer ça ou pas, he fell on his neck and kissed him. Ça veut dire comme le père a fait quelque chose qui était pas possible physiologiquement. Il a tombé sur son nuque, comme ça, courir comme ça, et faire un bisou à son fils. Je pense qu'il va avoir un problème. Il doit aller à l'hôpital parce que sa nuque est cassée un peu. C'est juste voilà. C'est une idiosyncrasie de la King James, la version King James. En bref. Il a couru, il a pris, il a donné un bisou à son fils, et je pense que c'est, il ne s'est pas dit, mais je pense que c'est les larmes de joie. C'est un moment de joie comme ça, et de pleurer aussi en même temps. Et en plus de ça, nous avons 2 Timothée chapitre 1, verset 4. Et si on pense que Paul était tellement stoïque, et je sais que des fois, certains sont stoïques. Paul était quelqu'un émotionnel, mais pas émotionnel dans son personnalité. Plutôt, c'est une expression de le Saint-Esprit en lui. Et lui, il dit en verset 4, « Me rappelant tes larmes, Timothée, en train de parler avec Timothée, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. J'ai la joie, Timothée. J'ai la joie. Et je peux rappeler les dernières fois qu'on était ensemble. Je vous les larmes et la joie que vous avez. Est-ce que nous avons vu quelqu'un dans une conférence où on a visité les larmes et le joie? Wow! C'est content, on a la joie de voir. C'est comme ça, c'est naturel. C'est les larmes des joies. Ça, c'est magnifique. C'est le moment de pleurer. Mais ce n'est pas pleurer beaucoup, c'est simplement de dire, c'est une expression de notre joie. Un qui est plus, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis presque arrivé au fin. Un qui est un peu plus triste, c'est en Matthieu chapitre, on va regarder, Matthieu chapitre 25 pour un exemple. Matthieu 25, verset 30. Wow. Enfer est une place que les gens vont pleurer. Le serviteur inutile, mais aussi ceux qui sont dans les autres versets, mais dort dans les ténèbres avec les pleurs et avec les grincements des dents. Quand les gens grincent les dents, c'est avec une colère inexprimable. C'est comme ils ne peuvent pas exprimer. Je ne peux pas commencer à imaginer l'enfer, mais imaginons, j'ai entendu et je lis certaines descriptions. Quelqu'un, nous avons notre ancienne nature pécheresse et les convoitises, une expression de convoitise, et on veut avoir quelque chose et on veut ça maintenant. Et on ne peut pas contrôler les désirs, c'est tellement fort qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Et en enfer, le même désir, parce que l'ancienne nature pécheresse reste. Mais la façon de saisir, de ressaisir, de remplir cet désir va jamais exister. Ça veut dire que c'est incontrôlable. C'est... J'ai entendu, je n'ai jamais fumé dans ma vie, mais j'ai entendu certains qui ont fumé, qu'après, s'ils n'ont pas fumé pour un certain temps, ils sont tellement, oh, j'ai besoin. Imaginons, multiplie ça millions de fois en enfer et quelqu'un ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Et en plus, toutes les histoires de la passé, ou ici sur la terre, et toutes les tristesses, toutes les... c'est déprimant. Donc, juste pour imaginer, de voir aussi avec les larmes de fureur, de colère, grincement de dents, parce qu'ils ont fait ça avec Étienne. Acte chapitre 7, c'était une colère, une fureur inimaginable. Oh, vraiment, ils ont grincé les dents, ils ont essayé de, littéralement, de faire ça avec Étienne. Littéralement, pour tout le monde en train de pas zoom, j'ai essayé de se mordre. Ça veut dire qu'ils ont littéralement essayé de mordre Étienne avec colère. C'était une colère démoniaque. Il ne peut pas se contrôler. Chut, vers Étienne. Il ne peut pas supporter d'écouter les choses qui sortent de lui. Et là, son visage qui brille comme un ange. C'était tellement incontrôlable. Et imaginons les gens comme ça en enfer. Et de pleurer. Mais ils ne vont être jamais satisfaits. Jamais. Quand on pleure, c'est triste. Mais après, on a fini de pleurer. Peut-être on va sentir un peu mieux. Mais quelqu'un en enfer ne va jamais sentir mieux. Toujours. Plus. Et c'est comme ça. Comme une image d'un cercle vicieux qui est en train de descendre. Donc, plus en plus. On ne va jamais expérimenter ça. Jamais. On va pleurer sur la terre. On va pleurer peut-être pour les gens perdus. On va pleurer parce qu'on est touché par le Saint-Esprit. On va pleurer parce qu'on est en train d'adorer le Seigneur et on est touché par le moment. On va pleurer parce que quelqu'un va prêcher et on est touché par la parole et on va dire, wow, oh, c'est tellement touchant. Un prédicateur va pleurer, il va essayer de mettre ça pas trop parce que lui doit continuer de prêcher. Mais on peut voir émouvoir avec émotion, avec compassion. Toutes ces diversités, il est des moments légitimes de pleurer et il est des moments pas légitimes de pleurer. Et bien sûr, les façons de pleurer, c'est important. Est-ce que c'est la pitié de soi ou est-ce que c'est partie de la vie spirituelle avec Dieu? Et donc voilà, un petit survol sur le sujet. Et on peut pleurer maintenant dans le somme, mais demain, c'est la joie. Le coucher du soleil, on est en train de pleurer avec quelque chose, mais demain, c'est la joie. On va se lever avec la joie. Voilà. Donc, et finalement, je vais terminer avec ça. La tristesse sur la terre, le moment qu'on est dans la présence de Dieu, le moment que le grand tremblement a terminé. On va pleurer pendant le grand tremblement parce qu'on va voir beaucoup de gens qu'on connaît. Mais à la fin, le Seigneur va enlever les larmes dans nos yeux et les souvenirs de le passé effacés. Donc, après ça, c'est la joie totale de le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse.